L'Épître aux Hébreux, chapitre 6, verset 11. J'ai à cœur de vous parler de la foi. La foi qui hérite des promesses. Amen. Pas des promesses des hommes, hein. Comprenez bien. Mais des promesses de celui qui est immuable, de notre Dieu. Hébreux 6, 11. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, et au verset 12, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Alors si je le dis en paraphrasant ou en lisant en diagonale, nous désirons que vous imitiez ceux qui, par la foi, héritent des promesses. Amen. J'ai résumé là, eh bien, ce que Dieu désire pour nous. Alléluia. Si la publicité proclame que les piles électriques d'une certaine marque, je ne la nommerai pas, ne s'usent que si l'on s'en sert, la foi, quant à elle, ne s'use pas, surtout lorsqu'on s'en sert. Amen. Bien au contraire, hein, la foi a plutôt tendance à s'user justement quand on n'en fait pas usage, quand on ne s'en sert pas du tout. Si Dieu a donné à chacun, je dirais, une mesure de foi, c'est pour que nous nous en servions. Amen. Ce n'est pas une option dans la vie chrétienne. Oh, je choisis sans foi ou avec foi, petite ou grande. Non, c'est la foi. La foi que Dieu a déposée en nous. Cette mesure de foi que Dieu nous donne, eh bien, elle doit nous servir en particulier à hériter des promesses que Dieu nous a faites. Et il nous en a faites nombreuses. Personnelle, collective, amen, à tout un peuple, à toute une nation, que sais-je, à toute une église, amen. Alors nous allons examiner quelques-unes de ces promesses bibliques et voir comment, eh bien, nous pouvons exercer notre foi et nous en servir pour hériter justement de ces promesses. Premièrement, c'est la foi pour se reposer sur la promesse du salut, amen, et on en a besoin. Il est dit dans Actes 16, verset 31, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » La foi chrétienne est la seule qui permet à l'homme perdu d'avoir l'assurance du salut. J'étais perdu. Vous ne dites pas « Alléluia » parce que vous attendez la suite et vous avez raison. Maintenant, je suis sauvé. Et là, il faut dire « Alléluia » parce que c'est important, c'est cela. Nous étions pareils. Il n'y avait pas un juste, pas même un seul. Tous avaient péché, tous étaient perdus. Et voilà que nous avons été réconciliés par le sang de l'agneau, par l'amour de Dieu qui s'est manifesté pour nous. Alors cette assurance ne repose pas sur nos qualités, nos œuvres, nos mérites. Nous n'aurions alors de quoi douter, hein, bien sûr. Mais elle s'appuie sur le sacrifice parfait de Jésus à la croix. Là où justement, eh bien, notre Seigneur a prononcé, je dirais, le tout accompli. Hein, tout est accompli et tout a été accompli parfaitement en tout point. Il n'y a rien à rajouter parce que c'est là que les portes nous sont ouvertes pour la vie éternelle. Amen. Alors n'abandonnons donc pas cette assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, comme le dit Hébreux 10, 35. Retournons-la. Elle est une ancre de l'âme sûre et solide. Et si l'ennemi, parce que son rôle à lui, il est là, c'est de nous faire douter, s'il veut nous faire douter, repassons dans notre cœur cette parole de l'apôtre Jean, hein, Jean chapitre 5, verset 13. Il dit, je vous ai écrit ces choses, elles sont écrites, c'est pour que nous puissions les lire, les comprendre, les saisir et les faire nôtres. Alors je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Qui croit en Jésus ce soir? Il y en a qui ne croient pas. Vous croyez tous en Jésus? Faites-moi un signe, oui. J'étais un peu fatigué, je n'ai pas levé la main. Mais oui, mais tout part de là. Notre rencontre ce soir n'aurait pas lieu d'être. Ou alors ce serait quelque chose de vain si Jésus n'était pas au milieu de tout. Et il est là. C'est parce que nous croyons en lui que nous venons. Et c'est alors que nous expérimentons, eh bien, l'action du Saint-Esprit qui nous rend la joie du salut. Je suis sauvé. Ça vous laisse de marbre? Réjouissez-vous pour moi. Je suis sauvé. Alléluia. Ensuite, il y a la foi pour saisir la promesse du pardon. important. Acte 10, 43. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Alors quand la Bible dit que Dieu nous pardonne nos péchés, il pardonne les péchés de celui qui se repent, bien sûr, ça ne signifie pas seulement que Dieu ne tient plus compte de nos péchés que nous avons confessés. Amen. Ce qui est déjà beaucoup, mais Dieu va plus loin parce que le châtiment que nous méritions ou que méritaient nos péchés, il est déjà tombé sur Jésus. D'accord ? Et parce que Jésus a livré son sang ou il a donné son sang pour nous, Dieu permettre que nos péchés soient sous ses pieds. Il les écrase. Amen. Il peut aussi les jeter au fond de la mer. Formidable, hein ? C'est profond, la mer. Pas au bord du sable, au bord de la plage. Il peut aussi les oublier et même les effacer. Amen. Non seulement il peut le faire, mais il le fait. C'est pourquoi cesse de garder en mémoire. Si tu as confessé, si tu as demandé pardon, tu as été pardonné. Permets au Seigneur d'effacer ces choses-là. Alors ça signifie tout simplement que tous nos péchés passés n'existent plus déjà dans la pensée de Dieu. Ils sont effacés. Amen. Dans la mesure justement où nous sommes passés par la repentance, et je rajoute, et l'abandon du péché. Qu'a-t-il dit à la femme adultère ? Va, pêche plus. Moi, je ne te condamne pas non plus. Je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. Amen. Alors, il y a là, une vérité extraordinaire à proclamer à la face de l'ennemi. Vous savez, quand il cherche justement à nous culpabiliser avec nos fautes, confesser du passé, je reviens dessus, confesser du passé et abandonner. Alors, Apocalypse 12, verset 10 nous dit « J'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ car il a été précipité. L'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Amen. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Vous voyez ? La parole de notre témoignage, j'appartiens à Jésus-Christ. J'ai confessé Jésus. J'ai obéi à sa parole, à ses commandements. Je me suis fait baptiser. Alléluia. Je donne un témoignage public. Gloire à Dieu. Et j'ai confessé mes péchés. Je les ai éloignés de moi. Je les ai rejetés. Alléluia. Troisième chose, c'est la foi pour s'emparer de la promesse de la victoire sur le péché. Amen. Romains 6, 14. Le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. On est sous la grâce. Dites Alléluia. Alléluia, je suis sous la grâce. Amen. Jésus n'est pas seulement venu sur terre mourir sur la croix pour que nous obtenions le pardon de nos péchés. Et j'y reviens, passé, c'est fini. Mais il est venu pour vaincre le péché, pour nous donner aussi la victoire sur le péché. Ça veut dire que celui qui se repent de ses péchés est pardonné. Et je dirais qu'il ne doit pas demeurer ensuite dans le péché. C'est-à-dire qu'il doit se considérer comme mort au péché. Quelqu'un qui est mort, il ne regimbe plus. Il n'est plus tenté. Il n'a plus des désirs malsains. Vous comprenez ? Il est mort. C'est fini. Donc, il doit se considérer comme mort au péché et ne pas obéir à ses convoitises afin que le péché ne règne plus sur lui. En effet, celui qui est né de Dieu ne pratique plus le péché comme par le passé. Eh oui, parce qu'il a reçu en lui la semence de Dieu. Amen. Cette semence, c'est déjà une semence de foi qui lui permet de remporter la victoire sur le péché et de triompher quant à l'attrait que le monde peut exercer sur lui. Amen. C'est-à-dire que tu as la capacité, puisqu'il y a la semence de Dieu en toi, de dire non, ça je ne le fais pas. Toi, je ne te veux pas. Toi, je ne veux pas te pratiquer. Vous comprenez ? C'est fini. Alors, il faut saisir cette victoire sur le péché. Elle se trouve en Jésus. Et s'il nous arrive encore de chuter en chemin, qu'est-ce qu'il nous faut faire ? S'asseoir dans sa misère, se lamenter et pleurer ? Toute sa misère ? Non ! Non, non ! S'il nous arrive encore de chuter, eh bien, il faut confesser nos péchés à celui qui est fidèle et juste pour nous les pardonner. Amen. Pas sur l'épaule du frère ou de la sœur, qui va être bien empêtré avec ça, bien embêté, très peiné déjà, et qui peut te juger. Mais sur celui qui ne te jugera pas. Tu es déjà jugé, tu es déjà condamné parce que le péché te condamne. Mais celui qui te dit, je te pardonne, mais ne pêche plus. Retiens la leçon. Un frère me disait, pour m'en souvenir, tu sais ce que je fais ? Je fais un nœud à mon mouchoir. Bon, il n'avait pas de Kleenex, lui. Hein ? Vous comprenez ? C'est-à-dire qu'il faisait tout pour pouvoir s'en souvenir. Je l'ai dans la poche, je sais, il y a un nœud. Ah oui, c'est vrai. Là, je ne peux pas. Je n'ai pas le droit. Également la foi pour s'approprier la promesse de l'amour. Ésaïe 54, verset 8. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face. Mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur l'Éternel. Le plus grand besoin de l'être humain, c'est quoi ? Hein ? L'amour. C'est d'aimer et d'être aimé. Amen. C'est important. L'amour humain peut nous apporter beaucoup de satisfaction. Mais il ne pourra jamais nous satisfaire pleinement. D'abord, l'amour humain, il fait souvent faillite. Hein ? Non ? Il nous dessert quelquefois, il nous fait souffrir souvent. Seul l'amour de Dieu est parfait. Vous avez conscience de cela ? Eh oui. Amen. Dieu est amour. Alléluia ! Dieu est amour et son amour pour nous est constant. Il est fort, il est inconditionnel, il est total, il est immuable, puis il est éternel. Amen. Je vous fais une confidence. L'amour de Dieu ne dépend pas de ce que nous faisons. En agissant mal, nous pouvons attrister Dieu, bien sûr. Mais nous ne pouvons pas affecter son amour pour nous. Est-ce que vous avez conscience de cela ? Eh oui. Dieu nous aime tout simplement. Pourquoi ? Eh bien, parce que nous sommes ses enfants. Amen. Nous sommes ses enfants. Cet amour est également un amour personnel. Et Dieu n'aime pas seulement le monde, je dirais, dans son ensemble, mais il aime chaque individu personnellement. C'est-à-dire que toi, ce soir, qui peut-être doute de l'amour de quelqu'un, sache qu'il y a Dieu qui lui t'aime. Bon, il l'a manifesté à la croix, cet amour. Et il n'y a pas de plus grand sacrifice que l'amour que Dieu nous a prouvé et que le sacrifice que Dieu a accompli sur le bord de la croix. Preuve de son amour. Amen. Il nous connaît également par notre nom. C'est-à-dire que notre destinée n'est pas cachée devant lui. Et quand il dira dans le livre d'Ésaïe, par la bouche du prophète, au chapitre 40, verset 27, « Pourquoi dis-tu Jacob ? Pourquoi dis-tu Israël ? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit est passé inaperçu devant mon Dieu. » Voyons, on peut se dire, mais il ne voit pas, est-ce qu'il m'aime vraiment, tu crois ? Et non, je ne sais plus. Alors il dit, ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris ? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence, mais il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Amen. Amour inconditionnel, amour parfait, amour éternel. Alléluia. Alors, voulons-nous, la question est là justement, voulons-nous laisser cet amour nous envahir dans tout notre être entier ? C'est important, hein ? Il faut lui laisser toute la place. Vous aurez encore de l'amour pour les autres, hein ? Mais d'abord, plus que tout, l'amour de Dieu qui remplisse votre cœur totalement. Cinquième chose, c'est la foi pour recevoir la promesse de la paix. Jean 14, 27. je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. La paix intérieure, c'est un des biens les plus précieux que nous puissions posséder. Cette paix, elle peut être troublée par bien des choses. J'ai noté quelques-unes. La culpabilité, sentir coupable de quelque chose. Les soucis, les inquiétudes, les craintes. Mais ce que je veux noter, et quelque part nous ramener sur le chemin de la paix, eh bien c'est le commandement qui revient le plus souvent dans l'Écriture, qui est le suivant, ne crains point. Ne crains point. Essayez de chercher, de noter à mesure et de comptabiliser, et vous verrez que ce ne crains point, il y est quelquefois dans la parole de Dieu. Elle me dirait, mais comment pouvons-nous bâtir la crainte? Ou la bannir plutôt, alors qu'elle nous assaille constamment? Et dans Philippiens chapitre 4, verset 6, Paul nous donne le moyen de vaincre justement la crainte. Quel est ce moyen? La prière. Il nous enseigne que nous pouvons faire fuir ce qui trouble notre paix, l'inquiétude, en faisant connaître à Dieu tous nos besoins. Comment ? Au travers de la prière. Au travers de la prière. Une prière accompagnée d'actions de grâce, hein, qui se reconnaît ou qui reconnaît les bénédictions du passé, hein, les bénédictions de Dieu pour fortifier notre foi, pour nous donner de l'assurance pour le temps présent. Amen. Alors je peux avoir un temps le cœur troublé. Je peux, pendant quelques instants, ou peut-être un peu plus long, des moments où je ne sais plus que faire, où j'ai peur. Ça vous arrive d'avoir peur? Moi, ça m'arrive. Hein. Mais au bout d'un moment, il y a la parole de Dieu qui revient. La présence de Dieu est là. La semence de Dieu est en moi. Je suis à lui. Il est mon Seigneur. Il m'a racheté à grand prix. Je lui appartiens. Alors Seigneur, si tu es là, je me calme. Je reviens à la raison. Parce que quelque part, j'avais perdu la raison. Et puis, je dis Seigneur, toi tu es le prince de la paix. Descends en moi, prends toute la place. Puis Paul nous assure que si nous le faisons, bien, nous serons alors au bénéfice de cette magnifique promesse, Philippiens 4, 7. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, elle gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. On va plus loin. Le sixième, il y en a sept. Après, on s'arrête. Hein. C'est la foi pour vivre la promesse de la joie. Eh oui. Jean chapitre 15, verset 11. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous. Et que votre joie soit parfaite. Notre Dieu est le Dieu de la joie. Néhémie chapitre 8, verset 10. Et Jésus a même déclaré que sa joie était parfaite. Jean 17, 13. C'est sa joie, cette joie-là, que Jésus désire nous communiquer. Je ne sais pas si vous l'avez réalisé. Pas une joie éphémère. Pas le joie qui est conditionné justement par des circonstances favorables, parce que quand c'est défavorable, on n'est pas joyeux, mais favorable, vous comprenez? Par exemple, la joie du salut, c'est pas quelque chose d'extraordinaire? Je suis sauvé, alléluia! La joie d'être aimé, on en a parlé, hein? La joie de l'héritage, je suis un héritier, un co-héritier avec Christ, amen! L'héritage qui m'attend là-haut. Pas formidable, qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni être détruit. Pas formidable? Ça, c'est bâtir sur l'avenir. Hein? Eh oui. Alors, nous avons tant de sujets de nous réjouir en Dieu. Et je dirais que ces sujets sont des sujets de joie, je dirais, permanents. Amen. C'est pourquoi Paul nous demande avec raison de nous réjouir toujours dans le Seigneur. Philippiens 4, 4. Nous devrions... Je dirais d'être d'autant plus capable de nous réjouir en tout temps parce que Jésus nous a fait une promesse merveilleuse. Jean chapitre 16, verset 22, je ne l'ai peut-être pas donné, mais moi je l'ai. La fin du verset, « Nul ne vous ravira votre joie. » Amen. Donc oui, je peux me réjouir. Dans un moment difficile, il y a l'allégresse de Dieu qui se saisit de moi. Puis voilà que malgré les autres qui me regardent et qui disent « il va craquer, tu vois, il va s'effondrer », je tiens le choc. Et puis en plus, quelque part, il y a une joie intérieure. Ce que la société me fait, ce que le monde me fait, ce que l'ennemi me fait, c'est parce que j'appartiens à Jésus. Oh, quel bonheur! Vous dites, ouais, et si des épreuves, j'en connais moi aussi. Et je peux vous dire que dans ces moments-là, quand on appartient au Seigneur, quand on sait qu'on n'est pas coupable, qu'on n'a rien fait de mal, il y a en nous cette paix extraordinaire qui fait que nous arrivons à être heureux, à nous réjouir. Nous nous réjouissons, et moi je fais comme ça, je me réjouis en disant, Seigneur, de quelle manière tu vas t'y prendre? Ah, cette situation-là, la troupe, t'as fait comme ça. Mais là, comment tu vas faire? Et j'attends, vous savez, je guette. Je me tiens à genoux devant le Seigneur, mais en même temps, je guette. Et je dis, comment est-ce qu'il va faire là? Et puis tout d'un coup, ça arrive. Alléluia. C'est comme si on avait décollé. Pouh, on était à l'apesanteur. Eh oui, mais c'est ça, c'est la joie du Seigneur. Elle est là. Hein. Alors, ça ne signifie que même le diable ne peut ôter cette joie. Elle est à nous. Nul ne vous ravira votre joie. Alors, si nous perdons notre joie, ben, je dirais que nous en sommes les seuls responsables. On ne peut pas dire c'est la faute. Hein. Non, non, c'est moi. Puisqu'il dit que personne ne peut me ravir sa joie. Vous comprenez? Ça veut dire que c'est moi le responsable. Si j'ai perdu cette joie, eh bien, je vais faire demi-tour. Je vais venir au point où justement j'ai commencé à la perdre et puis je vais reprendre un nouveau départ en disant, Seigneur, cette fois-ci, tu me mènes dans la bonne direction. La bonne décision, elle est là. Elle est là. Elle m'attend. Et puis, servons le Seigneur avec joie. Amen. Eh oui. Et si nous sentons le niveau de notre joie baisser, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, tournons les regards vers le Seigneur. Il est dit que nous allons devenir rayonnants de joie, le psaume 34, verset 6. Alléluia! Enfin, je termine par là, c'est la foi pour attendre, je dirais activement, l'accomplissement de la promesse du retour de Jésus. Jésus revient bientôt. Il n'y en a pas beaucoup qui disent Alléluia. Allez! Alléluia! Il revient bientôt. Jean chapitre 4, 14, verset 3. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il faut dire qu'en ce moment, il y a quand même des événements troublés. Nous vivons depuis quelques années des périodes particulières. Confiné, moi je ne l'ai jamais vécu dans ma vie que là. Guerre en Europe, tremblement de terre, aujourd'hui c'est encore tremblé. Ça a été ressenti à le Liban, Israël, l'Égypte et l'Irak. Et la Turquie, bien sûr, hein, et la Syrie. Parce que c'est déjà donc que ça part de là-bas. Alors, puisqu'il y a ces événements, est-ce que je dois craindre l'avenir? Dans Matthieu, le Seigneur a dit que nous devions lever notre tête et nous réjouir parce que son retour est proche. Amen. Quand vous entendrez toutes ces choses, et il y en a en ce moment. Alors, là, je veux poser plusieurs questions. Est-ce que de savoir et de vivre ces choses, être, allez, quelque part averti, est-ce que ça change quelque chose dans ma vie de tous les jours? Est-ce que je prends vraiment conscience de la proximité du retour de Jésus? Est-ce que je me prépare activement à ce retour, en veillant et en priant? Parce que ce jour risque de me surprendre. Et si je suis quelque peu assoupi, je ne vais pas dire endormi, mais quelque peu assoupi, je risque de passer à côté. Eh oui. Alors Jésus demande que nous prenions garde à cela, garde à nous-mêmes. et qu'il doit y avoir la crainte dans nos cœurs afin que nous ne soyons pas appesantis, même par les soucis détournés, et que ce jour ne vienne pas nous prendre à l'improviste, au contraire. Et à partir de là, eh bien, seule la prière et la vigilance, accompagnées de la foi, nous donneront la force de résister à tous les pièges, que ce soit la séduction, amen, l'ennemi qui veut quelque part nous détourner, tu as le temps. Il y a combien de temps qu'on dit que Jésus revient? Combien de temps, de générations avant toi l'ont dit? Et tu y crois? Mais oui. Alors il faut que nous paraissions debout quand il viendra. Amen. Lorsqu'il viendra pour enlever son église, son peuple. Et je conclue. Les promesses de la parole de Dieu, ces grandes et précieuses promesses, elles sont placées devant nous. C'est le sens étymologique du verbe promettre. Ça veut dire mettre devant. Amen. Alors oui, les promesses, elles sont là, devant nous. Qu'allons-nous en faire? Eh oui. Est-ce que je vais les saisir? Elles sont pour moi. C'est des promesses qu'il m'a faites. Est-ce que je vais m'en emparer? Ou est-ce que je vais les laisser à d'autres? Ou alors, je vais laisser l'ennemi spolier mon héritage? C'est à moi, normalement. Vous acceptez qu'on spolie votre héritage? Qu'on vous prenne ce qui vous appartient? Eh non, bien sûr. Alors que Dieu nous aide à imiter quelqu'un qui est formidable. Romains chapitre 4, verset 20. Abraham, hein, qui ne douta point par incrédulité au sujet des promesses de Dieu, mais qui se fortifia dans la foi, donnant gloire à Dieu, ayant la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut l'accomplir. Abraham, tu as 100 ans. Tu y crois encore? Tu y crois encore? Et Sarah, elle a passé l'âge, hein? Ben oui, j'y crois. Mais si tu crois, tu verras. Et Abraham, c'est ce qu'il a fait, il a cru, il a vu. Amen. À nous à faire pareil, à ne pas douter, que ce soit pour le pardon, pour le salut, que ce soit pour la joie, pour la paix, pour les promesses. C'est à nous. Amen. Jésus revient bientôt. C'est tout. Alléluia. J'y crois. J'allais raconter une histoire, je ne vais pas le faire. Une autre fois peut-être. Merci Seigneur pour ta parole. Bénis-nous, nous avons besoin de toi. Aide-nous à prendre conscience, Seigneur, de l'héritage qui est le nôtre. Merci de nous avoir introduits, Seigneur, dans ce plan magnifique et merveilleux, ce plan de salut. Seigneur, merci d'avoir pris les devants et d'avoir tout accompli toi-même. C'est pour nous que tu l'as fait. Alors je veux te bénir de tout mon cœur, Seigneur, et te dire à toi la gloire en toutes choses. Mais aide-moi, aide-nous à nous saisir, à prendre, à aller de l'avant avec toi, parce que tu nous as tout donné. À toute la gloire. Amen.